Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Jean-Dominique Giuliani, vous avez été maître des requêtes au Conseil d'État, puis directeur du cabinet de René Monory, alors président du Sénat, puis vous êtes entré dans le privé en 1998 et en 2001, vous avez fondé votre propre entreprise de consulting international, que vous présidez encore, ainsi que la fameuse fondation Robert Schuman, laboratoire d'idées qui œuvre pour la promotion de l'Europe et des recherches européennes. Vous avez publié des ouvrages au PUF et au Seuil consacrés au sujet de l'Europe, mais aussi au sujet des lobbies en France, dont nos auditeurs pourront retrouver les références sur le texte qui accompagne notre émission sur le site internet de Canal Academy. Jean-Dominique Giuliani, bonjour.
Bonjour.
La fondation Robert Schuman a été créée en 1991. Elle développe, publie des études, organise des colloques, des conférences pour enrichir et développer le débat européen. Telle est la mission qu'elle s'est donnée. Elle dispose de deux bureaux à Paris et à Bruxelles, d'une équipe de spécialistes, d'un comité scientifique bien sûr, qui accueille quelques représentants des pays membres de l'Europe. Et c'est justement l'activité éditoriale de votre fondation qui nous réunit aujourd'hui à l'occasion de la publication de l'ouvrage « L'État de l'Union 2007, rapport Schuman sur l'Europe », publié aux éditions Ligne de repère en mars 2007. L'ouvrage est collectif, il se présente comme un livre de référence sur l'Europe, centré sur le sujet, en fait, des principaux enjeux européens. Comment le citoyen européen peut-il se repérer dans une union de 27 membres ? Vous proposez ce livre qui est à la fois un outil, une référence. Quel est votre angle d'approche, Jean-Dominique Giuliani ?
Écoutez, 50 ans après la signature des traités de Rome, il était nécessaire de faire un bilan à la fois du chemin parcouru et, comme vous le rappelez, des principaux défis qui se posent à l'Union européenne. Alors, nous avons choisi de faire le bilan assez rapidement, sous forme d'introduction, et de nous consacrer aux principales questions qui agitent l'Europe ou qui peuvent interpeller le citoyen. Nous avons aussi ajouté 70 pages de références, de tableaux, de cartes, présentées d'une manière parfaitement accessible pour savoir ce que représente l'Europe dans le monde.
Il y a un véritable effort pédagogique pour montrer ces enjeux, effectivement.
Oui, absolument. Alors, le bilan, si vous voulez, en quelques mots,
oui.
Il est difficile dans l'instant de prendre la mesure historique de ce qu'est l'Europe. En réalité, c'est un processus débuté 5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui nous paraît très lointain, surtout pour les jeunes générations, et qui, jusqu'à aujourd'hui, a été un formidable succès. Succès économique, succès politique. Le succès politique premier, c'est d'avoir ramené la paix et la stabilité sur le continent. Et le succès économique, ça a été de permettre aux nations d'Europe qui étaient divisées, ravagées, ruinées par un conflit épouvantable, de se reconstruire aussi rapidement et d'atteindre les meilleurs niveaux de vie et de qualité de vie au monde.
Ce qu'on oublie bien souvent.
Ce qu'on oublie bien sûr, puisqu'on vit au quotidien persuadé que nous sommes menacés de toutes parts. Il faut de temps en temps replacer tout cela en perspective. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de précédent dans le monde d'une construction pacifique d'un ensemble de nations souveraines et de peuples qui décident de partager certaines de leurs compétences nationales pour être plus efficaces et en fait faire face à l'abaissement des frontières partout dans le monde. Alors l'Europe l'a fait à l'intérieur, parce que les pères fondateurs, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, avaient anticipé le mouvement de mondialisation, et surtout avaient profité de la lassitude des peuples européens qui, depuis plus de 6 ou 7 siècles, ne cesser de se faire la guerre en permanence, dans des logiques impériales, puis nationales, de s'affronter pour les richesses, pour la prééminence, pour conquérir des territoires et des biens, asservir des peuples. Ils avaient su anticiper, après ce 20e siècle épouvantable, où nous avons quand même été à l'origine de deux conflits mondiaux sans précédent. Nous avons créé les deux pires idéologies, qu'ils soient pour les libertés. Il y avait une grande lassitude des peuples, la volonté de se projeter dans l'avenir, et c'est ça que, en 1950, Robert Schuman et Jean Monnet rendent possible, qui se traduit en 1957 par le traité de Rome, plus le traité Euratom, c'est pour ça que je les mets au pluriel, toute une succession de traités, 5, pour arriver aujourd'hui au traité constitutionnel, sur lequel d'ailleurs notre pays a buté, parce que les peuples d'Europe s'interrogent sur le renouveau, l'actualité, la pertinence du projet européen pour les 50 ans et plus à venir.
Au début de l'ouvrage, on voit bien dans le chapitre écrit par Alain Lancelot que justement cette construction européenne qui s'échelonne sur 50 ans est faite d'étapes successives de traités, mais qu'elle a marqué des hésitations, qu'elle a connu des crises, qu'elle a toujours su les surmonter. Et on est sûrement au carrefour d'une crise importante, d'une crise majeure. Jean-Dominique Giuliani, l'Europe est-elle en crise? Est-ce une crise de plus?
Oui,
est-ce
oui.
un grand tournant?
Elle est toujours en crise et toujours en évolution.
Voilà, donc c'est quand même un renouvellement
continuel.
Ce sont
continuel. Des crises relatives, n'est-ce pas? Parce que dans le passé, lorsque nous étions en crise, nous étions en guerre. Ou alors nous connaissions la famine ou l'occupation. Aujourd'hui, quand nous sommes en crise, c'est que nous sommes autour de la table et que nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. C'est quand même un progrès important. Et je crois qu'il faut le rappeler. L'intérêt de cette introduction, c'est de rappeler justement que l'Europe, c'est un processus où nous vivons la crise, mais la crise diplomatique en permanence. Puisque bien sûr, mettre à la fois 27 États d'accord, faire partager par 27 peuples les mêmes, avec leurs identités, leur histoire propre, faire partager les mêmes décisions, parce qu'il s'agit bien de cela, c'est très difficile, mais finalement, ça vaut mieux que d'utiliser la force pour leur faire partager la même opinion. En fait, cette introduction met en évidence que l'Union européenne est fondée sur le droit et la force du droit, et pas sur le droit de la force. C'est pour ça que je dis que c'est unique dans le monde, et pour ça aussi que c'est imparfait, que parfois on ne s'y retrouve pas. Et l'objet de cet ouvrage, c'est d'essayer de replacer tout ça dans une perspective, sans nier les difficultés, mais d'aider tout le monde à s'y retrouver. Finalement, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, et nous avons de grands atouts pour le monde du XXIe siècle.
L'Europe traverse-t-elle quand même une crise de légitimité là en 2007? Est-ce qu'il y a une déficience démocratique? Les citoyens européens attendent peut-être autre chose aujourd'hui qu'ils ne perçoivent pas possible par les institutions actuelles
de
l'Union.
C'est exact, on peut dire ça, mais il faut aller plus loin. C'est une construction à deux étages. Or, jusqu'à présent, depuis deux siècles au moins, la démocratie s'exerce sur le plan national et dans le cadre national. Nous savons que nous élisons des représentants, bientôt un président de la République en France.
Et à propos d'élections, excusez-moi de nous interrompre, il y a justement dans l'ouvrage tout un petit récapitulatif des différentes élections européennes sous forme d'outils, de calendriers, bien utiles parce que justement on n'a pas les calendriers de nos voisins en tête.
Oui, c'est vrai. Et donc, nous, jusqu'à présent, nous avons l'habitude de la démocratie dans le cadre national. Et en fait, nous construisons une démocratie supranationale. Alors, est-elle possible? Certains théoriciens disent que non. Mais en réalité, dans la pratique, c'est le cas. Nous avons construit déjà une démocratie un peu supranationale. Nous avons d'une part les États membres, avec leur parlement, leur gouvernement légitime. Ceux-ci se retrouvent à Bruxelles pour décider ensemble. Ils sont légitimes et ils prennent des décisions légitimes, forcément après négociations, compromis, et ils décident un certain nombre de règles qui s'appliquent à tous, transférant en cela à un niveau supérieure une partie de leur légitimité. Par ailleurs, le Parlement européen, lui, directement élu, vient contrôler, au nom des citoyens européens, ses décisions. C'est un mécanisme démocratique inédit qui manque de transparence, que les gens connaissent mal, et qui parfois n'est pas très efficace pour décider alors que le monde va si vite. Donc, on dit « l'Europe n'est pas démocratique ». En réalité, je pense que l'Europe manque de politisation. C'est-à-dire que dans nos débats nationaux, on le voit bien à l'occasion des élections présidentielles en France, il n'y a pas de sujet qui n'ait pas une dimension européenne. Il n'y a pas de sujet national qui ne puisse être traité finalement plus facilement avec nos voisins. Bien sûr, s'agissant de l'éducation, de la culture, nous tenons à nos priorités et à nos traditions. Il n'y a pas de problème, personne ne les remet en cause. Mais quand nous voulons être efficaces sur le plan militaire, mettre sur le chantier des règles environnementales strictes pour éviter, lutter contre le réchauffement climatique, quand nous voulons maîtriser l'immigration clandestine, etc., etc., nous pouvons mieux le faire au niveau européen qu'au niveau national. Et nos hommes politiques, nos femmes et nos hommes politiques, devraient tous les jours, lorsqu'ils s'adressent à leurs électeurs futurs, évoquer ces deux dimensions,
cette
la dimension nationale et la perspective européenne, parce que c'est un outil de plus à la disposition des gouvernants pour résoudre les problèmes des citoyens.
Alors, dans les programmes de l'éducation nationale, la jeunesse de France est instruite sur les questions européennes, ça fait partie des programmes. Par contre, vous parliez peut-être de l'absence de la perspective européenne dans les discours habituels électoraux français, mais les journalistes ne sont pas non plus très présents à Bruxelles. Je crois qu'il n'y a que 85 journalistes français en permanence, dont une quarantaine très actifs, par rapport à nos voisins européens qui semblent beaucoup plus investir même dans l'information. Il y a un décalage entre cet accès à l'information, justement,
oui, bien sûr, nous
et les citoyens. Alors, le site de la Fondation Robert Schuman, sans vouloir vous lancer vraiment des fleurs, est assez bien fait. Et la newsletter permet une information justement très précise de ces questions. Mais ce que reproche l'opinion peut-être, elle se heurte à la complexité de l'objet européen et c'est peut-être justement aussi de manquer d'informations, tout simplement.
Oui, c'est vrai, chaque fois qu'on interroge les Français, comme d'ailleurs d'autres Européens, ils réclament plus d'informations. Et je pense que c'est à la classe dirigeante française et allemande et britannique d'expliquer objectivement ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'un gouvernement légitime, pour réglementer les zones de pêche au milieu de l'Atlantique, il est plus facile de le faire avec ses partenaires européens que de le faire tout seul. Il n'aurait pas les moyens de faire appliquer ses décisions. Donc ça ne sert à rien à la fois d'aller prendre des décisions très écologiques à Bruxelles et ensuite de protester contre les décisions qu'on a prises soi-même. C'est un peu ce qu'on fait, c'est un petit jeu politique qui s'explique par le fait que nous votons encore, pour la plupart du temps, sur le plan national, dans le cadre national, et que nous décidons de plus en plus au niveau européen. Alors, pour les citoyens, c'est difficile de s'y retrouver, d'autant plus qu'il s'agit souvent de négociations diplomatiques entre États, que c'est assez compliqué et technique. On l'a bien vu lorsqu'on a soumis un traité à référendum, 458 articles, compliqués, qui commençaient par Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté la reine d'Angleterre et le président de la République française. Donc surprise générale, oui, c'est ça aussi, la coopération entre États, ce sont des techniques compliquées. Et je regrette un peu qu'on parle trop souvent de l'Europe à propos des méthodes de travail et pas tellement du contenu des politiques. C'est d'ailleurs, je crois, l'erreur que nous avons commise avec ce référendum. On a interrogé les Français sur le contenant, la casserole dans laquelle on fait la soupe européenne, alors qu'ils voulaient parler du contenu des politiques. Politique économique, politique sociale, politique d'aide au développement, c'est ça qui intéresse les citoyens, on ne leur en parle pas assez, on ne met pas assez en évidence les acquis, mais aussi les besoins que nous avons pour le futur, et il faut vraisemblablement, c'est ma conviction pour étudier ça au jour le jour, il faut davantage en parler en toute transparence et agir davantage au plan européen dans la transparence, mais avec une petite fierté aussi.
Angela Merkel a accordé un entretien dans l'ouvrage « L'état de l'Union 2007, rapport Schuman sur l'Europe », dans lequel, mais elle l'a dit aussi ailleurs, elle s'engage à relancer le projet du traité constitutionnel. On a longtemps misé sur le couple franco-allemand, qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de cette construction européenne. À la fin de l'entretien, elle prend note encore de la remise en route et de la confirmation du couple franco-européen. Mais au sein de l'Union européenne, à 27 membres, ce leadership franco-allemand peut-il être menacé ? On est plus fort à deux, même si ce sont deux éléments forts de la fondation de l'Union européenne. Peut-il y avoir un autre leadership possible ?
Je ne crois pas, parce que sur le continent européen, la France et l'Allemagne représentent 40% de la richesse du PIB de la zone euro, 30% de la population de l'Union à 27. Ce sont des pays majeurs, les deux plus grosses économies. Et de surcroît, la valeur symbolique du couple franco-allemand est importante, puisque c'était au cours du XXe siècle et même à la fin du XIXe, les ennemis héréditaires qui ont accepté de déposer les armes pour se réconcilier. Donc ils ont à la fois le poids et la légitimité pour faire progresser un processus difficile qui consiste à se dépouiller de compétences nationales, attachées à la souveraineté, pour les partager. Et l'Europe s'est construite comme ça. S'est construite toujours un peu à l'envers. C'est une pyramide où on partage certaines des compétences pour résoudre un problème. Ça a commencé avec l'énergie, on va y revenir d'ailleurs bientôt. Vrai. Et puis ça a continué avec la politique agricole, ça a continué avec toute une série de sujets. Et puis au fur et à mesure, on crée un mouvement politique où les États, bien que souverains, bien que légitimes, soutenus par leur peuple, préfèrent partager avec leur voisin immédiat, avec lequel ils ont plus de choses en commun qu'avec d'autres, pour réussir à satisfaire les demandes des citoyens. Ça reste toujours le même projet depuis l'origine, même si les formes peuvent varier, les sujets peuvent varier. Nous n'avions pas en 1950 de problème d'immigration clandestine.
Et puis il y avait le cadre de la guerre froide, il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Nous avions des problèmes d'énergie déjà, nous les avons résolus comme ça. Et petit à petit, donc dans la déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, qui est un très beau texte, qui est le déclencheur en fait du mouvement d'intégration européenne, on retrouve tout cela. L'Europe ne se fera pas d'un jour par une construction d'ensemble comme on les aime en France. Un beau concept, ou en France ou en Allemagne d'ailleurs, elle se fera par des réalisations concrètes. C'est-à-dire que les citoyens attendent, aujourd'hui par exemple, ils attendent une croissance économique renouvelée, soutenue, qui soit durable dans un contexte compétitif mondial beaucoup plus rude et difficile. La Chine, l'Inde, l'Asie en général.
Là, l'Union européenne a un poids réel.
Voilà, et donc c'est vrai que la première zone économique du monde, parce que l'Union européenne, c'est le premier PIB mondial. Voilà. 13 000 milliards de dollars devant les États-Unis. Elle a la capacité elle-même de se ressaisir. Pour ça, il faut certainement faire un peu de sacrifice, mais aussi nous avons la capacité d'atteindre des objectifs, c'est-à-dire remettre en marche un dynamisme que nous avons d'ailleurs connu dans les années 60 et 70 grâce à ce mouvement d'intégration.
Un dynamisme économique ?
Dynamisme économique qui, à mon avis, est la condition du dynamisme politique.
Alors, quels sont les chantiers d'aujourd'hui et de demain de l'Union européenne ?
Écoutez, on en fait la liste. Alors, il y a ce qui concerne proprement l'Union européenne. On pense immédiatement au traité, à la réforme des institutions. On ne gouverne pas à 27 comme on gouvernait à 6, c'est évident. Il faut donc mettre un peu en harmonie nos institutions européennes avec ce qu'est devenu cette grande Europe. Il y a comme conséquence immédiate le problème démocratique ou politique que vous évoquiez. Il faut que les citoyens s'y retrouvent davantage, soient fiers d'être européens. Il y a un sentiment d'appartenance qu'il faut
permettre. Qu'est-ce que c'est qu'être européen pour vous, Jean-Dominique Sulliani ?
C'est être français. Pour moi, c'est d'être français et plus et quelque chose en plus. Et quand je vais en Chine ou aux États-Unis, je vois très bien ce que cela signifie. Ça signifie des messages très profonds sur les valeurs qui portent l'Europe, c'est-à-dire, une fois encore, la force du droit plutôt que le droit de la force, pour résoudre les problèmes internationaux. Un exemple dans le monde de coopération pacifique entre les nations et les peuples, c'est aussi un grand marché économique, domestique, puissant, qui soit à la fois capable de concilier la nécessaire liberté économique, mais aussi les minimums de protection de la personne, minimums sociaux, qui lui permettent de vivre à l'abri avec sa famille, chacun dans sa vie, soit respecté, puisse progresser, puisse être protégé, mais dans une vision dynamique et non pas dans une vision restrictive.
Entrons-nous dans une ère de remise en cause du modèle européen ?
Je ne le crois pas. Je crois que le modèle européen, je crois que c'est écrit dans cet ouvrage, est un modèle qui fascine le monde entier. D'abord à nos frontières, tout le monde veut y entrer.
Oui.
Il a marché, c'est-à-dire coopération économique, entraînant peu à peu une meilleure compréhension politique et même populaire, partageant ce que les Allemands, les Français, les Italiens, les Espagnols ont de richesse culturelle, leur passé propre, mettant côte à côte leurs identités sans les nier. C'est un modèle qui, aujourd'hui, fascine au point que l'Asie veut s'organiser au sein de l'ASEAN, que l'Afrique du Sud s'organise dans un marché commun d'Afrique du Sud, que l'Amérique latine s'organise autour du Mercosur. C'est un exemple.
Mais ce sont des alliances économiques.
Mais bien sûr, mais l'Europe même est une alliance économique. L'objectif reste politique.
Mais aujourd'hui, elle est devenue autre chose.
Mais parce
qu'elle aspire à autre chose.
Elle a commencé la première. Voilà. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'on est au seuil de la politique, notamment en matière de politique étrangère, en matière de défense. Mais c'est l'évolution normale d'une alliance, d'habitude de coopération, qui rompt complètement avec l'histoire du monde, avec l'histoire des États, avant même que la démocratie n'existe. Donc ce n'est pas une logique d'affrontement, c'est une logique de coopération. Et j'ajoute qu'il y a des messages spécifiquement européens concernant, par exemple, l'aide au développement. L'Union européenne est le premier fournisseur, si je puis dire, d'aide au développement dans le monde. Elle donne 70% de l'aide aux pays les plus pauvres. Alors, vous me direz que c'est insuffisant, mais c'est déjà un exemple.
Et c'est moins connu, effectivement, puisque là, ça ne touche pas directement les citoyens européens.
Oui, sauf donc, quand ils regardent leur journal télévisé et qu'ils voient la misère en Afrique, via les incidents climatiques, les accidents, les inondations, etc. Ils ont envie, on le sait, surtout les Français sont particulièrement sensibles et généreux, de se mobiliser pour venir en aide aux plus pauvres. Et ben, ils peuvent déjà être fiers de ce que fait chacun des pays d'Union européenne, plus l'Union européenne en plus. C'est exactement comme ça que ça fonctionne.
La représentation de la France au Conseil de sécurité à l'ONU, elle occupe un siège. Dans l'histoire du couple franco-allemand, est-ce que justement ce siège pourrait être partagé ?
Écoutez, il faut toujours en matière européenne...
Ou bien peut-il être transformé en un siège de l'Union européenne ?
Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour parce que la réforme de l'ONU est bloquée. Mais il faut toujours être très concret, très pragmatique. Il ne faut pas buter sur les obstacles.
C'est symboliquement fort.
Le statut de la France dans le monde est quelque chose de particulier, dû à son histoire et à sa réalité. D'ores et déjà, il n'y a pratiquement pas de grandes orientations de politique étrangère française qui ne soient pas discutées avec nos partenaires privilégiés que sont les Allemands. Donc, on peut imaginer que cette coopération, notamment en matière de politique étrangère, de défense, se renforce pour faire de la présence du Conseil de sécurité, la présence française, d'en faire une présence franco-allemande. Mais regardez, c'est même pas nécessaire. Lorsqu'on veut essayer de ramener l'Iran à la raison, à la table des négociations, on prend les cinq grandes puissances nucléaires du Conseil de sécurité, on y rajoute naturellement l'Allemagne, qui pèse par son poids économique et diplomatique d'une manière importante. Et la coopération européenne dans ce domaine-là, y compris avec les Britanniques, est exemplaire.
On parle de l'Union européenne, d'un élargissement réel. Et donc la question d'un territoire pour l'Union européenne, c'est une question complexe. Vous évoquiez les frontières au tout début de l'entretien, frontières qui tombent, mais on est dans un espace géographique qui bouge tout le temps, qui bouge par étapes. Or, on reste souvent enfermé dans un seul cadre comme ça, spatial, lié à sa génération, etc. Il faut continuer à s'ouvrir quand on est maintenant habitant européen. Cette mouvance des frontières peut-elle favoriser de l'inquiétude au moment des négociations, de l'ouverture des négociations de l'adhésion de la Turquie, qui ont été bloquées? Ça a suscité en France une inquiétude, un débat, mais aussi une inquiétude pour beaucoup de Français.
Oui, bien sûr. Il y a plusieurs choses. D'abord, moi, je ne parle pas de l'élargissement, je parle de l'expansion de l'Europe.
Quelle est la différence?
L'expansion, c'est quelque chose de volontaire, de pacifique. Ce n'est pas un processus colonial où l'Europe colonise ses voisins. C'est la réunification de l'Europe s'agissant de l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale. Permettez-moi de noter que c'était un devoir moral et que si l'Europe a été divisée, notamment par le communisme et l'impérialisme soviétique, après la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas avec l'accord des peuples des pays d'Europe centrale. Ils ont été dominés et asservis. Et nous n'avons pas pu l'éviter à l'époque. La réunification du 1er mai 2004, ça constitue, pour un Letton, un Tchèque ou un Roumain, en 2007, ça constitue, comment dirais-je, la réunification du continent, puisqu'ils ont toujours appartenu à l'Europe historique et ils estiment être en droit d'appartenir à l'Union européenne, qui n'est qu'une partie du continent européen. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, sur le plan des inquiétudes. Oui, vous avez raison, ça rejoint la question de la démocratie et de la politique au sein de l'Union européenne. Si on veut construire une Europe qui soit démocratique, il faut qu'elle ait des limites. Et je ne parle pas de frontières, il faut qu'elle ait des limites.
On ne parle plus de frontières
au sens du traité de Westphalie. Voilà. Hein, on parle de limites politiques. Et à l'intérieur de ces limites politiques, il y a des procédures électorales, démocratiques, des garanties de droits individuels et collectifs qui permettent à chacun d'exercer sa libre pensée et sa libre action. Ça, c'est la démocratie. Donc si on veut une démocratie européenne renforcée, avec la difficulté que c'est une construction à deux niveaux, la nation, puis après l'Europe, il faut des limites à l'Europe. C'est ça, je crois, que les Français, d'autres, les Néerlandais, je pense que les Autrichiens, les Allemands ne sont pas très éloignés de nous, c'est ça qu'ils réclament. Ils réclament des limites identifiées. Elles peuvent bouger. On peut un jour, dans 20 ans, penser que l'Ukraine a fait la preuve qu'elle était une nation culturellement, politiquement européenne et lui offrir d'entrer. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de fixer ses limites, d'instaurer une démocratie transparente à l'intérieur. Dernier point que vous évoquiez, l'économie. Les inquiétudes sont aussi des angoisses de concurrence à l'intérieur du grand marché. Or là, l'expérience nous permet de répondre avec certitude. Lorsque l'Espagne, le Portugal ou la Grèce sont rentrés dans l'Union européenne, 81, 86, tout le monde avait très peur, notamment de l'Espagne. Nos agriculteurs ont estimé que c'en était fini de la production de tomates, de melons et de tous les fruits et légumes. Et en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, pratiquement 25 ou 30 ans après, eh bien, aujourd'hui, la France a un excédent commercial avec l'Espagne de 2 milliards d'euros chaque année. Ce qui prouve bien que l'expansion de l'Europe, aux conditions auxquels on le pratique, c'est-à-dire que les gens qui adhèrent acceptent nos règles. 100 000 pages de journal officiel. cette expansion, cet élargissement, prononçons le mot, c'est gagnant-gagnant. Et c'est des gens qui nous rejoignent, des peuples, des États qui nous rejoignent, qui acceptent nos règles, sans exception et sans exemption aucune. La Bulgarie vient de rentrer dans l'Union européenne, elle va devoir fermer sa centrale nucléaire qui produit 50% de l'électricité du pays. C'est une décision de l'Europe. C'était ça où je n'entre pas. Inutile de vous dire que les Bulgares ne sont pas contents et que nous allons les aider, peut-être leur vendre de l'électricité aussi, etc. Mais parce qu'elle était dangereuse, c'était une centrale de type Tchernobyl, etc. Voilà, c'est ça le mécanisme européen. Donc, alors, des inquiétudes se sont exprimées là-dessus, assez malsaines en réalité. C'est toute la thématique du plombier polonais, de la concurrence sociale, fiscale, etc. En réalité, il n'y a pas de concurrence sociale au sein des pays d'Europe. Il y a eu, en France, depuis toute cette vague d'élargissement, 0,1% de la population qui est venue des nouveaux adhérents. Et en plus, on prend des précautions, on a des clauses transitoires, c'est tous des processus compliqués pour ne pas déstabiliser le marché du travail, évidemment. Mais nous avons tout à gagner à équiper ces pays qui sont à nos frontières et qui, sans la solidarité européenne de chacun des États membres, seraient des espèces de trous noirs à nos frontières qui généreraient le crime, la pauvreté, l'instabilité et Dieu sait quoi ensuite.
Pierre Cardin a révolutionné le monde de la mode et de la haute couture jusqu'au mobilier et à l'art contemporain. Et l'artiste est venu dans nos studios pour se raconter comme créateur, comme mécène, de sa jeunesse à son élection à l'Académie des Beaux-Arts. Et pour le clin d'œil, il raconte même qu'il a conçu les habits verts de plusieurs de ses confrères académiciens. Pierre Cardin, artiste, Pierre Cardin, mécène, et en outre, plusieurs interviews des lauréats des prix Pierre Cardin. Nous vous proposons en tout 3 émissions sur l'homme qui a fait entrer la haute couture à l'Académie des Beaux-Arts.
Alors, parmi les configurations des territoires de l'Europe, parce qu'il n'y a pas un seul territoire, il y a le territoire de l'Union européenne, mais dans l'ouvrage, un magnifique outil cartographique, parce qu'il y a vingtaine de cartes très bien faites. Et il y en a une sur les territoires de l'Europe qui est intéressante, qui montre justement la politique européenne de voisinage qui pourrait montrer effectivement ces élargissements.
Oui, alors si on se réfère aux géographes, il n'y a pas vraiment de définition du continent européen.
Est-ce que ça s'arrête?
Où commence l'Amérique, les Amériques? On a déjà des difficultés avec l'Asie, puisque la Turquie est en Asie, l'Australie c'est assez facile, l'Afrique aussi, et quant à l'Europe, il y a historiquement des divergences.
Il y a un problème.
D'autant plus qu'entre l'Union européenne et l'Europe, il y a aussi des différences.
Ce n'est pas la même chose.
Voilà. Il y a la Russie d'Europe, par exemple, à l'ouest de l'Oural. Pierre Ier avait même demandé à ses géographes de prouver que la Russie était bien en Europe. La Turquie, vous le savez, dit « je suis en Europe ».
Bien sûr.
Et en réalité, on n'a pas de certitude géographique. Sauf quand même qu'on sait qu'au nord, à l'ouest et au sud, les mers délimitent l'Europe. Mmh. En tout cas, l'Europe telle qu'on l'apprend à l'école maternelle. Il y a un problème à l'est. Il y a un problème à l'Est, parce que, et je sais par exemple que l'Académie des sciences morales et politiques a entendu de très belles communications que j'ai toutes lues et écoutées sur ces sujets-là, où commencent les limites de l'Europe, où finissent-elles, etc. En réalité, il y a une sorte de consensus des experts pour dire qu'à l'Est, les frontières actuelles sont à peu près les frontières les plus consensuelles de l'Europe. C'est-à-dire la ligne de partage entre les abbayes romanes et d'autres styles d'église, notamment de l'orthodoxie, par exemple. Mais évidemment, c'est très compliqué. On voit bien qu'il y a une incertitude à l'Est. Paul Valéry disait, l'Europe n'est que le petit cap du continent asiatique. Voilà d'où vient l'incertitude. Alors, à l'intérieur de cette Europe, il y a plusieurs espaces. Bien sûr, il y a l'Union européenne. Donc, il ne comprend pas, par exemple, la Russie d'Europe, qui a encore quelques trous aussi, la Suisse, la Norvège. Islande, le Groenland, qui ne veut pas rentrer en Europe. Bon. Mais il y a aussi différents espaces de coopération. L'Union européenne, c'est 27 membres, mais la zone euro, les gens qui partagent l'euro comme une monnaie commune et unique, ce ne sont que 13 pays.
Oui.
De la même manière pour la zone dite des accords de Schengen, c'est-à-dire dans lesquels la libre circulation est totale. Vous prenez l'avion, le train ou la voiture, vous n'avez pas à présenter de pièces d'identité à la frontière, vous représentez le même espace. Alors là, c'est pareil, il n'y en a que 13. Voilà, en gros, les territoires de l'Europe tels qu'ils sont organisés. On peut en rajouter d'autres. Il y a l'Organisation de sécurité et de coopération européenne qui est destinée à ramener un peu la paix. Il y a le Conseil de l'Europe lui-même qui comprend 48 membres, dans lequel il y a la Russie et la Turquie, qui est l'Europe du droit, en quelque sorte, où on essaie de diffuser notre droit. Déjà, une Europe à plusieurs vitesses. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on s'interroge sur l'avenir de l'Union européenne, évidemment, beaucoup pensent que seul un petit groupe d'États, ou même un groupe plus important d'États, peuvent continuer à conduire ou relancer le processus d'intégration des politiques européennes entre les États. Eh bien, ce sera possible, ça existe déjà.
Effectivement, il y a 4 scénarios pour l'Union européenne qui sont présentés dans l'ouvrage. Sur justement des espaces différents qui englobent plus ou moins certains pays. Qu'est-ce que vous pensez de ces scénarios possibles ?
Les scénarios présentent l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui.
Il y a l'Union européenne qui se confondrait avec justement les membres du Conseil de l'Europe qu'on évoquait, ça fait quand même une carte
Brest à Vladivostok.
C'est important. Le scénario dit au fil de l'eau de l'Union européenne qui s'étend sans la Russie au Conseil de l'Europe, mais à l'exception de la Russie. Un troisième scénario sur une Union européenne à 28. Et un quatrième scénario sur des frontières temporaires de l'Union et des horizons d'action assez différents. Alors, moi, je suis toujours sceptique sur ces scénarios. Mais pour quelles raisons, justement ?
Mais pour quelles raisons ? Parce que le monde change.
Oui, mais puisqu'on parle de coopération, d'accord, de critères aussi, économiques, politiques, etc. Pourquoi le calquer forcément sur un espace ?
Mais parce que nos voisins le demandent d'abord. Ils veulent adhérer à l'Union européenne, ils considèrent que c'est un formidable succès. Et ensuite, quand on prêche la coopération avec ses voisins, on les écoute. Et donc, on ne dit pas, mais non, ça ne vous concerne pas, etc. D'abord parce qu'on a des relations à avoir avec eux. Regardez, avec la Russie, on a un problème énergétique, par exemple. On a des relations politiques. Et ensuite, comme ce sont vos voisins, mais vous ne les ignorez pas, donc vous les écoutez. Alors, il y a quand même une donnée fondamentale, c'est que le monde a beaucoup changé. Et il s'organise aujourd'hui en grands pôles. Je dirais qu'il y a un problème de taille. La Chine fait 1,5 milliard d'habitants, l'Inde 1,2 milliard bientôt, enfin un peu moins pour l'instant. Les États-Unis font 300 millions d'habitants, mais la deuxième richesse mondiale. Et donc la France seule, l'Allemagne seule, le Royaume-Uni tout seul ne sont pas à la taille du monde d'aujourd'hui pour résister à la concurrence et mener la concurrence. Donc voilà pourquoi on se pose la question, est-ce qu'à 27 on est suffisamment fort, est-ce qu'on doit s'élargir encore, c'est ça la vraie question.
Oui.
Bon, soyons raisonnables, on voit bien d'abord qu'il faut que cette expansion marque un petit temps d'arrêt. Ne serait-ce que pour se mettre en ordre sur le plan institutionnel, pour que les processus de décision soient plus efficaces, que la démocratie soit mieux organisée, etc. Mais on a cette forte pression de l'extérieur où tout le monde veut nous rejoindre. Alors, il faut distinguer selon les cas. Il y a par exemple le cas des Balkans occidentaux. Alors, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie,
l'Albanie,
le Monténégro, bon... Si vous avez eu l'occasion d'aller, ne serait-ce qu'en vacances en Croatie, je profite pour faire de la publicité, parce que c'est une destination que les Français, à juste titre, aiment beaucoup. Vous apercevez des efforts faits par ce pays, par exemple, pour rejoindre les standards européens. Parce qu'il estime qu'historiquement, il n'aurait jamais dû être détaché de l'Europe. Bon. Mais ils étaient encore en guerre il y a 12 ans. Et la perspective d'adhésion à l'Union européenne a beaucoup contribué à l'apaisement des esprits. C'est loin d'être terminé. La perspective de rejoindre un jour l'Europe est la garantie de la paix dans les Balkans. C'est pour ça que de temps en temps, On ne comprend pas pourquoi les chefs d'État ou de gouvernement ne sont pas plus fermes à l'égard des gens, des États ou des peuples qui veulent adhérer à l'Union européenne. C'est pour ça. C'est parce que le prix de leur fermeté, ou s'ils claquaient la porte tout de suite, ce serait immédiatement des troubles dans ces pays qui nous concerneraient, puisqu'on serait obligé d'aller y ramener l'ordre, et qu'ils viendraient jusque sur notre territoire. Et dans les Balkans, là où nous avons connu, à la fin des années 90, des conflits que nous espérions ne plus jamais revoir, ethniques, avec des horreurs, etc., il est vrai que nous avons une responsabilité historique, non seulement parce que c'est tout près, mais aussi parce que ce sont nos valeurs qui sont interpellées. Hein, on voit encore du racisme, on voit encore du nettoyage ethnique présent dans les esprits, donc nous devons répondre à ce défi qui nous est lancé. J'ajoute que les 5 pays des Balkans représentent la moitié de ceux qui nous ont rejoints le 1er mai 2004. Donc, je veux dire, le coût économique, même politique, est relativement limité par rapport à la puissante Europe. Ça, c'est pour les Balkans. Ensuite, il y a la question turque. Alors ça, c'est une autre nature, n'est-ce pas? C'est 70 millions d'habitants, 100 millions d'habitants en 2050. On change de continent. Quelle que soit l'histoire, y compris les liens avec la Turquie, et on sent bien qu'il y a un vrai blocage, non seulement en France, mais dans plusieurs pays membres de l'Union européenne. Est-ce pour autant qu'il faut leur claquer la porte et leur dire « jamais nous ne voulons coopérer avec eux » Non, nous coopérons avec eux. Nous avons ouvert notre marché à eux, mais c'est très réglementé. Nous n'avons pas ouvert les frontières, par exemple, aux travailleurs. Mmh. Ça n'empêche pas l'Allemagne de compter plus de 3 millions de Turcs, etc. Donc, vous voyez, il faut être extrêmement concret. C'est pareil avec l'Ukraine, c'est pareil avec la Biélorussie. Il faut aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une phase de pause des élargissements, pour d'abord nous mettre en ordre, retrouver toute notre puissance et notre dynamisme dans ce monde très compétitif qui se dessine à nos yeux. Et puis ensuite, on pourra penser à autre chose. Avec un demi-milliard d'habitants, l'Europe aujourd'hui a déjà une puissance importante dans le monde.
Jean-Dominique Giuliani, merci pour ce point sur le rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2007, qui ouvre une série, si j'ai bien compris, annuelle. Voilà. Donc l'an prochain, vous reviendrez pour l'état de l'Union 2008.
Absolument.
Ouvrage dans lequel, justement, il est fait le point sur les défis internes, l'Union européenne dans le monde, on a un petit peu parlé, mais aussi sur le plan économique, sur la mondialisation, enfin, comment l'Union européenne peut se situer, s'il y a des perspectives et des prospectives, un grand entretien d'Angela Merkel, et puis surtout des outils chronologiques, cartographiques, des statistiques, beaucoup de tableaux, une cinquantaine de tableaux. C'est un très, très facile à lire.
Nous avons fait beaucoup appel à la ressource Internet qui nous permet, par exemple, vous pouvez trouver
tous les grands textes sont sur le site.
Du discours d'Aristide Briand en 1929, à celui de Churchill en 1946.
L'esprit des pères fondateurs est loin d'être mort, il est justement bien vivant à travers votre action et la publication de cet ouvrage. Jean-Dominique Giuliani, merci beaucoup.